Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une page d'histoire du Sud-Ouest que nous allons parcourir ensemble ce matin. Fondée en 1839, la Maison Privat, comme l'on dit, est une des rares maisons d'édition de province à avoir traversé maintenant pas loin de deux siècles. Une histoire qui dit quelque chose du tempérament de cette partie méridionale de la France, de sa fierté, de son ambition intellectuelle et de sa force de résistance. Une histoire qui est aussi l'histoire jusqu'à il y a peu d'une famille, une histoire du livre et de ses tribulations. Le livre, cette espèce qui ne veut pas être en voie de disparition. Privat, une histoire toulousaine, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi matin. On va parcourir une page d'histoire qui parle du caractère de ce grand Sud-Ouest qu'on aime tant et qui parle, on va dire, je pense, au-delà de Toulouse. Autour du plateau, pour nous en parler, honneur aux dames, Isabelle Privat. Vous êtes une des descendantes de la famille Privat et auteur d'un mémoire d'histoire sur Jean-Baptiste Charles Paillard, qu'on découvrira dans quelques instants. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Clonière, vous êtes professeur émérite d'histoire à l'université Rennes 2. Donc, vous êtes breton, pas tout à fait, vous nous le direz, et auteur donc d'un ouvrage plus que consistant d'un très bon ouvrage, Privat, une histoire, je vais y arriver, d'une maison toulousaine parue aux éditions Privat. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous faire voyager. On essaye en ce moment de faire voyager les auditeurs. Et quoi de mieux que l'histoire pour sortir de cette actualité court-termiste à laquelle on est contraint, où on a tous ensemble le nez sur cette pandémie qui n'en finit pas. Histoire de Privat, je disais en introduction, avec un sourire dans la voix, que c'est une histoire du caractère peut-être méridional de cette partie de la France. Fierté, ambition intellectuelle, force de résistance. Clonière, vous qui avez passé une partie de votre vie en Bretagne et qui avez quelques affinités aussi avec les Bretons, Sud-Ouest, Breton, Pays Basque, Corse, même combat, même caractère, vous diriez?
Non, pas du tout. Je ne suis, comment dirais-je, arrivé en Bretagne tout simplement que par une voie devant Clonière. J'étais professeur, donc. J'ai été agrégé, donc j'ai été nommé en Bretagne.
Ma question était davantage sur le caractère, le fort caractère qu'ont les gens dans le Sud-Ouest, en Bretagne,
le caractère
au Pays Basque.
Du Sud-Ouest est très différent du caractère breton. Et avec très très grand plaisir, je suis revenu dans mon pays.
Alors, on va donc parler des éditions Privat, de cette maison. Il y a deux figures à l'origine de cette maison, Jean-Baptiste Charles Paillard et Édouard Privat. Avant de se plonger dans cette partie du 19e siècle, vous diriez que Clonière, quand vous êtes plongé dans l'écriture de ce livre, c'est de fait aussi une page d'histoire du Sud-Ouest, de se plonger dans celle de cette maison d'édition?
Mais l'histoire de Privat est inséparable de l'histoire de Toulouse et inséparable de l'histoire du Sud-Ouest. C'est aussi un grand projet culturel et une aventure extraordinaire qui a été initiée par un homme qui lui-même était pourvu de fort caractère et de forte qualité. Donc,
qu'est-ce que ça dit du Sud-Ouest, vous diriez, en introduction de cette émission? C'est quoi? C'est l'ambition intellectuelle du Sud-Ouest?
C'est l'ambition intellectuelle.
Son ouverture d'esprit?
C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Et je pense que sous tous les représentants qui ont mené cette maison, cette ouverture s'est toujours trouvée présente. Depuis le premier Édouard jusqu'à Pierre Privat, qui a été, je n'irai pas de loin, mais qui a été un fort représentant de cette famille.
Pierre Privat, c'est donc votre père Isabelle Privat, et on aura l'occasion d'en parler, qui est donc a été à la tête de cette maison pendant presque 36 ans. Alors, plongeons-nous dans cette histoire. Au tout début, il y a deux personnages, en tout cas, on va parler de deux, et je trouvais intéressant de passer un petit peu de temps sur ces deux personnages dans cette première partie d'émission, avant qu'on voit le développement éditorial de cette maison, qui a donc longtemps été une maison d'édition, une imprimerie et aussi une librairie. Certains auditeurs qui sont de la Ville Rose doivent le savoir. Au début, il y a donc deux figures, et alors d'abord un Aveyronnais, si on recommence un tout petit peu en amont, avant 1839, Jean-Baptiste Charles Paillard. Il est donc né dans l'Aveyron, à Campagnac, Non, vous me faites non, mais vous allez me corriger tout de suite. Ah oui, pardon, excusez-moi, en effet, je me suis trompé de fiche. Ça commence mal. Il est né dans le Gers, celui-là, pardon. Et c'est le cinquième enfant d'une fratrie de neuf. Donc c'est Jean-Baptiste Charles Payat. Son père décède tôt et il est envoyé d'une certaine manière, si j'ai bien compris, en apprentissage à Toulouse. Racontez-nous ce Jean-Baptiste Charles Payat. C'est un, on va dire, un enfant issu d'un monde simple, sans aucune critique, et qui monte quelque part à la capitale locale et qui commence presque une aventure intellectuelle assez vite.
Oui, c'est tout à fait étonnant. Il est né donc dans l'épicerie de son père, qui était à Gimont, dans le Gers. D'ailleurs, le bâtiment existe toujours. C'est un très beau bâtiment à côté de la halle, au cœur de Gimont. Et son père, effectivement, ils ont été neuf enfants. Jean-Baptiste était le cinquième. Quand son père est mort, il avait 12 ans. Sans doute il a continué une sorte de scolarité à ce moment-là, et puis vers l'âge de 15 ans, très, très vite, on a dû vouloir le mettre en apprentissage quelque part, et on avait dû remarquer qu'il avait des aptitudes à la lecture, probablement parce que après toute sa vie ce sera ça, la lecture et l'écriture.
Alors il décide assez rapidement donc de fonder une librairie. Fonder une librairie principalement destinée à la vente des livres classiques d'éducation et de piété, et né donc dans ce sillage, entre autres une revue importante, la Revue du Midi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les débuts de cette aventure de Jean-Baptiste Charles Payat ?
Voilà. Donc, effectivement, il est arrivé à Toulouse, il s'est mis en apprentissage chez l'imprimeur et libraire Vieuxceux. Il a dû apprendre là les techniques du métier. Et puis, il lisait jour et nuit. C'est ce que, dans une biographie, on retrouve. Et il a dû passer 8-10 années, comme ça, être un petit peu dans les librairies, dans les commerces de librairies. Il est parti à Paris 2 ans. Et quand il est revenu, il a fondé tout de suite une édition, une maison d'édition et librairie, Place Rouex. Et tout de suite, il s'est mis à éditer une histoire de la ville de Toulouse.
Donc avec un projet éditorial bien précis dès le début.
Tout à fait. Et la Revue de Midi a suivi immédiatement après. C'était en plein mouvement de décentralisation intellectuelle. Les provinces commençaient à prendre conscience de la valeur de leur patrimoine, de leur particularité par rapport à Paris, parce que jusqu'à cette époque, justement, Paris s'imposait comme...
Ça a duré, d'ailleurs, hein,
centralisatrice.
Dans les maisons d'édition, c'est
absolument
toujours un peu le cas.
Et le livre a été un des produits exclusivement parisiens, jusqu'à ce qu'il y ait effectivement quelques personnes qui ont tenté leur chance en province. Et Jean-Baptiste Payat en a fait partie.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'homme et le profil intellectuel qui était celui de ce dernier, puisque c'était un homme, on va dire, assez original pour son époque, qui, sauf erreur de ma part, a été jusqu'à faire de la prison.
Voilà. Et si j'ai intitulé mon mémoire universitaire Jean-Baptiste Charles Payat, éveilleur de conscience. Voilà. Ça a été ma conclusion quand j'ai lu beaucoup sur son histoire, sur les livres qu'il a produits. C'était quelqu'un qui avait... Le commerce du livre en lui-même ne l'intéressait pas beaucoup. La preuve, c'est lui qui a embauché Édouard Privat, justement pour le réaliser à sa place en 1835. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les idées. Les idées et surtout et faire accéder le peuple aux connaissances.
Certaines idées, donc c'était un républicain marqué. Il a même un temps, ai-je compris, essayé d'éditer une version française des œuvres de Karl Marx, c'est bien ça ?
Absolument. Il a eu trois vies, Jean-Baptiste Payat. Il a eu trois vies.
On passe à la dernière.
À un moment donné, il a quitté Toulouse en 1846, après avoir produit quand même un catalogue de 160 titres, et que j'espère promouvoir maintenant. et je vais le faire. Et ensuite, il est parti à Paris, et c'était juste... il y a eu la révolution de 1848. Il s'est trouvé embrigadé dans une... Il a créé une agence de presse, une des premières agences de presse de France. C'est dans le cadre de cette de ce travail, de cette correspondance, que il a été inquiété à la suite d'une journée qui s'est appelée la journée du 13 juin 1849, donc qui a créé un mouvement politique
en tout cas, donc,
contre la politique romaine de Napoléon président. Il a été condamné à la déportation à la suite de cette journée.
Donc une figure en tout cas intellectuelle déjà assez marquante. Alors la deuxième figure intellectuelle dont on va parler, c'est donc Édouard Privat, qui est d'une certaine manière donc le fondateur donc de cette maison Privat. Alors lui, c'est un enfant de l'Aveyron. Si vous deviez comme ça aussi, Clunière, présenter à gros traits qui est cet Édouard Privat, dans quel environnement il est né et quel a été le début de cette aventure, de cette maison d'édition, comment est-ce que vous nous le présenteriez ?
Je dirais que c'est quelqu'un qui a eu un début de vie qui marquait les enfants qui n'avaient pas de possibilité de développement dans leur famille, dans le coin et là où ils habitaient. Donc il est venu à la ville. C'est un phénomène tout à fait classique, mais
c'était pas si classique dans sa famille en tout cas. C'était le
pour sa famille
c'était
non.
Le seul, hein.
Mais c'était socialement un phénomène. Je dirais courant, on est quand même dans une ville de plus de 120 000 habitants à l'époque, hein, de 50 000 à 120 000, elle est passée très rapidement. Et là, il pensait trouver du travail. Pourquoi est-il allé dans la librairie ? Je n'en sais rien. Mais vous le savez peut-être, ou sans doute. Et je pense qu'il a été très influencé par celui qu'il avait pris, c'est-à-dire par Paya. Il lui a gardé d'ailleurs une forme d'amitié, puisque vous parliez du moment où il avait été en prison, et il s'était inquiété de lui à ce moment-là.
Parlez bien devant le micro, Clunière, s'il vous plaît.
Alors, en ce qui le concerne, lui...
Alors, l'aventure se lance d'autant plus avec Édouard, qui va donc vraiment lancer cette maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi le contexte politique et intellectuel dans lequel a commencé cette aventure, le livre à l'époque, enfin le monde du livre à l'époque, ce n'était pas celui d'aujourd'hui, hein, on ne publiait pas tout ce qu'on voulait.
Loin de là. Il y avait une censure qui était une censure extrêmement sévère qui avait été mise en place après la chute de Napoléon. Il y a eu tous les phénomènes de la Restauration. Donc tout ce qui était écrit était surveillé, les journaux étaient surveillés, Payan a fait d'ailleurs les frais. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'a commencé l'affaire, qu'a commencé l'aventure d'Édouard Privat.
Alors, une aventure aussi intellectuelle, on va dire, dès le début, très ouverte, et on finira par ça avant de faire une première pause musicale, puisque dès le départ, si j'ai bien compris, c'est une maison d'édition qui faisait autant place aux ouvrages religieux. Il y avait même une forme d'accord qui avait été passé avec l'archevêque de Toulouse de l'époque, si j'ai bien compris, et puis des ouvrages laïcs. Expliquez-nous cette ouverture dès les départs et un peu ces deux poumons, on peut dire comme ça.
Si l'on ne comprend pas que dans la première moitié du 19e siècle, l'Église joue un rôle fondamental dans le domaine de la culture, on ne comprend pas très bien le premier début ou le début du 19e siècle. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a commencé à travailler. Et c'est avec l'Église, ou plutôt, il est devenu très rapidement l'éditeur de l'archevêché qu'il a commencé ses débuts. Mais en même temps, et en ce sens c'est très bizarre, il ressemble au dernier, à Pierre. Pierre Privat, je fais un bond de plusieurs siècles.
On y reviendra après.
Pierre Privat avait comme directeur de l'imprimerie un membre du STO qu'il avait connu. Et qui était communiste.
Le STO, pour ceux qui ne savent pas, c'est le travail obligatoire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Exactement. Il était communiste, comme directeur de l'imprimerie. Et lui, il a entré, et Édouard est entré dans le domaine de l'édition et de la librairie, en sortant d'une, d'une atmosphère qui était une atmosphère extrêmement ouverte. C'est ce que vous avez dit. Vous en avez parlé vous-même avec l'œuvre de Karl Marx. Il était en plein développement du marxisme. N'oublie pas que 1848, quand même, est célèbre par un petit opuscule qui s'est signé par Engels et Marx.
Allez, on va faire une première pause musicale et puis on va retrouver pour continuer à découvrir l'aventure de cette maison d'édition. Mais les fondations sont posées avec ces deux enfants du pays, l'un dans Gers et l'autre dans l'Aveyron. On va dire deux, je ne sais pas si c'était des enfants précoces, mais en tout cas deux aventures intellectuelles, deux hommes d'une certaine liberté, on l'a compris, en une époque où la liberté était, on va dire, une fine ligne de crête. On vous retrouve dans quelques instants. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, je rappelle le titre de votre livre, Claude Nier. Je vais y arriver. Priva, pardon, une histoire d'une maison toulousaine parue aux éditions Priva.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Priva, une histoire toulousaine, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église. En ce vendredi matin, on se plonge dans une page d'histoire du Sud-Ouest, donc avec cette maison d'édition, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est l'occasion de la découvrir. Pour ceux qui sont des habitués de la Ville Rose, eh bien, ils découvriront ou ils parcourront quelques pages de ce monument culturel. Autour du plateau, pour nous en parler, Claude Nier, vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université Rennes 2. Auteur donc d'un ouvrage que l'on parcourt aujourd'hui, Priva, une histoire d'une maison toulousaine, paru aux éditions Priva. Et Isabelle Priva, vous êtes une des descendantes de cette famille et auteur donc d'un mémoire d'histoire sur Jean-Baptiste Charles Paya, dont on a parlé rapidement au début de cette émission. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'aventure éditoriale qui s'est dessinée dès les débuts et qui, sauf erreur de ma part, s'est confirmé au long des siècles, oui. Que sont ces deux poumons dont on a parlé un peu trop rapidement, la littérature religieuse et l'ouverture au monde laïque. Alors vous disiez, Claude Nier, qu'il y avait eu une forme d'accord. Pour ceux qui ne sont pas férus d'histoire comme vous, dites-nous un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire que quand il y a eu un accord avec donc l'archevêque de Toulouse, si j'ai bien compris, Monseigneur Florent Jules Félix Després, c'était en 1860. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des éditeurs qui étaient chargés quoi, d'éditer les catéchismes et autres, c'est ça?
Absolument. Je répète ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'essentiel de ce qui était édité avait une connotation religieuse ou une connotation érudite. En dehors, bien évidemment, de tout ce qui était les poèmes et tout ce qui pouvait être les romans de l'époque. Le public était peu nombreux. Et donc, ce qui était important pour une maison d'édition, ou plutôt un libraire et une maison d'édition, puisque les deux étaient collés, c'était de trouver une clientèle qui était une clientèle fidèle. Et la clientèle la plus fidèle qu'il puisse y avoir, c'était l'Église, à l'époque, puisque l'université ne s'était pas encore développée et il n'y avait pas encore cette ouverture que Paul va faire par la suite. Donc, c'était limité. Dans la mesure où c'était limité, il a d'abord été... Je dirais en copropriété avec un personnage qui s'appelle Bon, sur lequel j'ai trouvé très peu de renseignements. Je n'ai pas cherché beaucoup à dire vrai, mais ça a été quand même une période qui a duré à peu près 8-10 ans, pendant laquelle, bon, il a cherché à faire quoi ? Il a cherché à trouver des clients pour vendre ses livres, ou à amener des clients à la librairie.
Mais est-ce à dire qu'on n'achetait pas d'autres littératures à l'époque, qu'en fait l'essentiel des achats était de la littérature religieuse ?
Quel était le public à l'époque ? Il faut être raisonnable. L'enseignement était extrêmement limité en ce qui concerne le primaire, en ce qui concerne les jeunes filles, n'en parlons pas. En ce qui concerne les garçons, les lycées ont été créés par Napoléon. Point, c'est tout. Donc, quelle était la littérature que l'on éditait, que l'on vendait ? C'était des livres religieux, des livres pieux. Et c'était bien évidemment tous les livres nécessaires pour exprimer sa foi. Et que l'on trouve les catéchismes.
Isabelle Privat, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, j'ai lu dans le courant de mes études que c'est ce que les éditeurs parisiens laissaient aux éditeurs provinciaux.
Oui.
C'était le domaine religieux. Et eux éditaient beaucoup plus les romans. Et particulièrement, enfin, tout ce que la littérature s'est ouverte à énormément de champs après la Révolution. Et là, les éditeurs parisiens qui se les réservaient.
Il y avait déjà cette coupure France-Provence. Alors, quand on dit que dès les débuts, donc, il y a eu une ouverture au monde laïque, si on doit préciser, qu'est-ce que c'est ? Vous dites tantôt dans votre ouvrage que les professeurs d'université savaient qu'ils devaient beaucoup à cette maison païa. Ça veut dire que dès le début, il y a eu aussi donc une littérature savante, mais laïque, c'est ça ?
Les scientifiques, selon leur spécialité, écrivaient des livres qu'ils tentaient de vendre. C'était des livres extrêmement érudits. Il y avait un zoologue, par exemple, qui a fait paraître quelque chose, un spécialiste qui s'occupait de la végétation, des jardins, des choses de ce type. Et puis, les acheteurs étaient peu nombreux. Ce qui a caractérisé véritablement, me semble-t-il, le premier, c'est-à-dire Édouard, ça a été son ouverture vers les autres éditeurs. Il a pris contact avec des éditeurs qui étaient Abadi, par exemple. Il a pris contact avec MAM, la maison MAM. Il a pris contact avec toute une série de maisons d'édition de province qui, elles-mêmes, avaient un public particulier. Et c'est ça qui a fait, en quelque sorte, le socle de son départ. C'était un commerçant. C'était un homme cultivé, mais c'était aussi un commerçant. Et donc, ce qu'il cherchait, c'était à vendre des produits. Et ces produits, c'était des livres. Mais il ne vendait pas n'importe quel livre. Il avait une idée, je crois, très, très forte et très, très généreuse de son œuvre. Et n'oublions pas que c'est lui qui est donc responsable de l'histoire du Languedoc.
Alors justement, j'allais y venir. On l'a vu donc avec Païa. Dès les débuts, il y a donc la création de cette revue du Midi, l'édition d'un certain nombre d'ouvrages qui parlent du Sud-Ouest, l'histoire de la ville de Toulouse, ai-je lu, Toulouse monumentale et pistoresque, etc. C'est Privat est aujourd'hui connu pour ça. C'est un axe éditorial aussi qui a continué à se développer. On va dire, jusqu'à tout au long du 19e et du début du 20e siècle.
L'histoire du Languedoc, c'est une monstruosité. Je veux dire une monstruosité dans la mesure où se lancer dans cette aventure-là, avec les moyens que l'on possède à l'époque, y compris les moyens financiers, c'était un pari extraordinaire. Et il l'a confié en grande partie, bien évidemment, à ce que je dirais à des laïcs et non pas à des religieux. Je me permets de rappeler qu'au XVIIIe siècle, toutes les histoires qui ont été écrites par des bénédictins. Donc, autrement dit, là, il dépassait le rôle ancien des livres historiques que nous pouvons avoir, par exemple sur la Bretagne, vous parliez de la Bretagne tout à l'heure, en créant quelque chose qui dépassait l'histoire laïque. Il faut toujours ça avoir. Nous sommes au XIXe siècle.
Tout le monde n'a pas vécu une partie de sa vie comme vous au XIXe siècle.
Au début des luttes ouvrières, Et nous sommes au moment où naît une sorte de, je dirais, de laïcité dans la production qui dépasse les romans. Alors, scientifique, c'est plus facile.
Allez-y, continuez, c'est pas grave.
Historique, c'est aussi plus facile. D'où l'histoire de Languedoc. L'histoire de Languedoc est une œuvre tellement monumentale qu'elle va, comment dirais-je, coûter très cher à la maison Privat.
Alors j'aimerais qu'on parle d'une période qu'on s'attarde, parce que donc après Édouard Privat, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu donc Paul Privat, et puis après Édouard II. Et ensuite, donc, on viendra à des temps qui ont été ceux de Pierre Privat, votre père. J'aimerais qu'on s'arrête sur... Il y a eu plusieurs guerres en France, donc la guerre de 70, la guerre de 14. Mais j'aimerais qu'on s'arrête particulièrement sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une période que peu d'entre nous ont connue aujourd'hui. Et il me semble qu'il est toujours bon de s'arrêter sur cette période pour en tirer quelques enseignements. Et puis, vous y accordez une place relativement importante dans votre ouvrage. Si on reste sur... on va dire sur cette ouverture, à vous lire, Clonière, là aussi, la famille Privat, pendant la Seconde Guerre mondiale, a essayé de tenir un peu les deux bouts, c'est-à-dire qu'à la fois elle était proche du clergé et des positions de Mgr Saliège. Je vous laisserai rappeler donc en deux mots qui était Mgr Saliège et quelles ont été ses positions pendant la guerre. Et en même temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, Madame épouse Privat se présente donc à l'élection municipale. On pourrait se dire que là c'est un grand écart qui va trop loin.
Vous faites un raccourci extrêmement raccourcissant.
Alors allez-y, élargissez mon raccourci.
Si je peux dire. D'abord, je vous ferai remarquer qu'on ne parle pas de la guerre de 14, avant. Mais il faut se rendre compte que le grand personnage qui va jouer pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Madeleine, laquelle était l'épouse d'Édouard II. Et c'est elle qui va jouer un rôle déterminant pendant cette période-là et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la maison Privat est en crise de direction. Dans la mesure où Édouard II est mort, où Paul, qui devait lui succéder, est mort lui aussi d'un accident.
Mais restez sur ma question, on va dire...
Mais j'y arrive.
Intellectuelle ou éditoriale.
J'y arrive. Et où la maison se trouve en déshérence, non pas de direction, mais en situation très, très difficile. Alors, la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté plusieurs choses. D'abord, les difficultés énormes pour éditer des ouvrages. D'une part, pour vendre des ouvrages, surtout au fur et à mesure que s'est imposé l'ordre allemand, qui a limité l'apparition d'ouvrages et qui les liste auto, supprimé un certain nombre d'ouvrages parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient ceci, parce qu'ils étaient cela. Puis ensuite, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus de papier. De l'encre d'imprimerie, c'était impossible ou quasi impossible d'en trouver.
Vous rappelez aussi dans votre ouvrage qu'à l'époque, les gens avaient d'autres préoccupations parfois que d'acheter des livres aussi, ou d'autres urgences.
Oui. Mais ils avaient moins de loisirs que maintenant, et la lecture était quand même un des moyens dans lequel ils pouvaient s'évader un peu. C'est très ambigu, cette période-là. Je n'ai jamais autant lu que pendant la période où j'étais jeune enfant. La littérature existait et se développait, mais elle était limitée. La maison Privat, c'est une maison qui s'est adaptée. Et qui s'est adaptée finalement en partie en s'appuyant sur un mouvement qui était ambigu et qui était le rattachement qu'avait une partie des autonomistes, entre guillemets, hein, que l'on trouvait en Bretagne, que l'on pouvait trouver aussi à Toulouse, qui s'appuyait sur les occupants allemands à partir de 1942. Alors, la famille Privat elle-même, Jean Privat à l'époque, était le propriétaire du journal.
Alors juste, il faut que vous répondiez à ma question, Clunière. Je vous ai posé une question précise qui était, la famille Privat était pendant la guerre à la fois proche de Mgr Saliège, heureux donc de cet évêque qui avait déclaré pendant la Seconde Guerre « un juif est mon frère, une juive est ma sœur » et qui s'était posé, on va dire, en premier opposant de certaines dérives du régime de Vichy. Et en même temps, donc, cette famille, mais je ne jette pas du tout l'anathème sur la famille Privat, ce n'était pas l'objet, mais c'était pour dire un petit peu la ligne de crête qui a essayé probablement de tenir cette maison d'édition tout au long de sa vie. Cette famille était aussi, comme nombre de Français, devait faire avec la réalité. Expliquez-nous un peu cette tension.
C'était une tension tout à fait normale. Une grande partie de la population, et dans les élites, était maréchaliste. Si vous prenez l'histoire de l'Institut catholique de Toulouse, l'ensemble du clergé était maréchaliste. Mais en même temps, il y avait une tradition qui était antiraciste. Les mesures qui ont été prises contre les Juifs n'ont pas été suivies ou ont été contrecarrées très fortement à Toulouse, partout. Personnage qui était Jean...
Y compris dans le monde de l'édition, justement.
Le monde de l'édition publiait ce qu'il pouvait. En tout cas, il ne pouvait pas publier des œuvres subversives.
Je parlais pas seulement des publications, je parlais aussi parfois de la difficulté pour permettre à des personnes juives de travailler dans les imprimeries.
Ça, c'est essentiellement. Alors ça, c'est les liens qu'il pouvait y avoir entre les Privats, liens que je ne connais pas, je l'avoue franchement, et l'Institut catholique de Toulouse, qui était un des très grands centres de recueil de tous les poursuivis, qu'ils soient communistes, présistants, résistants, juifs, etc. Jean Privat avait une attitude tout à fait ambiguë. Il était maréchaliste. Être maréchaliste, ça ne veut pas dire, pour les générations actuelles, ne le comprendraient pas, mais ça ne voulait pas dire du tout être pro-allemand. Être maréchaliste, c'était de se rattacher à une tradition. Et puis le maréchal avait une grande aura avec son attitude pendant la Première Guerre mondiale. Maréchaliste, donc, Jean Privat a poussé son fils, Pierre, à aller au STO.
Donc le service du travail obligatoire en Allemagne.
Absolument, absolument. Votre mère m'en a parlé. Et Pierre Privat est donc parti. Et après une partie de sa formation... à l'extérieur de la maison Privat. Mais c'était Jean qui était là. Jean a été plus ou moins poursuivi, plus ou moins dénoncé. On ne savait pas avec qui il était. Et on pensait, et je pense que c'était en partie juste, qu'il avait des liens avec, catholique comme il l'était, des liens avec... ou qui, tel qu'il m'est paru.
Parlez bien devant le micro, Clunier, sinon on ne vous entend pas. Isabelle Privat, est-ce que sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose dont votre père parlait parfois? Et comment est-ce qu'il en parlait?
Alors, effectivement, il était dans un camp de travail et il nous en a parlé. Toujours dans le sens de surtout en faire le moins possible, résister donc à la pression allemande. Je sais qu'il était à côté d'un camp de concentration. En tout cas, il y avait des Juifs. Et il savait qu'il mourait de faim. Et j'ai su qu'il avait organisé dans le camp de travail justement de récupérer de la nourriture qu'ils avaient peut-être, eux, ils avaient une nourriture un peu plus abondante, pour les passer clandestinement aux Juifs qui se trouvaient dans le camp de concentration. J'ai su des choses comme ça. Il a résisté au maximum à tout ce qu'on lui imposait de faire comme travail obligatoire.
Clonier, avant qu'on fasse une deuxième pause...
C'est un élément déterminant. C'est un élément déterminant, ce passage au STO de la part de Pierre Privat. C'est son père qui a poussé Jean, qui l'a poussé d'aller au chantier de jeunesse.
On a
compris.
Parce
qu'avant avant le STO, il y a eu les chantiers de jeunesse.
Clonier, juste une dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause. Pour vous, ça sera peut-être anecdotique, mais j'ai lu à l'occasion donc, de la lecture de votre ouvrage que a été publié donc, l'appel à la jeunesse de France... a été publié donc un appel à la jeunesse de France dans le journal La Dépêche, qui, je ne me trompe pas, donc venait aussi du général de Gaulle. Hein, c'était un appel à la résistance. Et vous dites dans votre ouvrage qu'il est passé quasiment inaperçu, relégué en deuxième page. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur ce point?
C'est un point que j'ai constaté, disons. L'attitude de la presse dans le Sud-Ouest, puisque je suis tarbé, et que j'ai vécu ça, moi... comme gamin. L'attitude de la presse, c'était une attitude extrêmement ambiguë, en fait. J'ai rencontré très peu de journaux, il y en avait, qui étaient les journaux installés, si je puis dire, que ce soit à Tarbes, ma ville ou ici, qui, disons, acceptaient le régime de Vichy tel qu'il évoluait, et en particulier les rapports avec les Allemands. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 1942, il y a eu l'occupation.
Alors là, je parle de juin 40. Hein. Vous dites que cet appel a été publié en juin
40.
Ah oui, hein.
Mais ce n'est pas étonnant. Il a été publié aussi dans la Nouvelle République, à Tarbes. On connaissait De Gaulle, on connaissait son appel plus ou moins, et il avait été reçu, oui, d'une manière anecdotique. Beaucoup moins anecdotique a été le moment où De Gaulle a été condamné. Et là, les journaux s'en sont fait, bien évidemment, en donné le récit et ont informé. C'est une période très trouble, vous savez.
Mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en parler, parce que c'est toujours facile de juger l'histoire de manière rétroactive.
Il ne faut pas faire d'anachronisme en histoire.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler des années de Pierre Privat, de l'après-guerre, donc de votre père Isabelle Privat, qui a été donc plus de 30 ans à la tête de cette maison. Ça sera l'occasion de parler du combat. Hein. On a l'impression, à vous lire, Clonière, du combat pour que le livre continue d'exister, y compris dans le Sud-Ouest, via cette grande maison. Je rappelle le titre de votre livre, Privat, une histoire d'une maison toulousaine, parue aux éditions Privat.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Privat, une histoire toulousaine, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, mais une histoire toulousaine qui parle aussi du Sud-Ouest et qui est une page d'histoire. On essaye de voyager aujourd'hui, on trouve toutes les astuces possibles et imaginables pour voyager et peut-être aussi pour tirer quelques leçons, entre autres de ce qu'on a évoqué au long de cette émission. Je pense particulièrement dans la deuxième partie, combien tenaces ont été nos aînés dans des périodes bien difficiles, voire bien pires. Autour du plateau, pour nous en parler, Clonière, qui est professeur émérite d'histoire à l'université Rennes 2 et ouvrage donc auteur d'un ouvrage sur cette maison, paru aux éditions Privat, ça tombe bien. Et Isabelle Privat, vous êtes une des descendantes de cette famille, auteure d'un mémoire d'histoire sur un sujet tout proche, sur les débuts de cette maison d'édition. Dans cette dernière partie, donc, j'aimerais qu'on parle de Pierre Privat. Alors peut-être que certains le connaissent parmi nos auditeurs. Certains sont nés après-guerre et ont probablement connu ou entendu parler de cet homme. Si on commence, allez, je tire un peu la couverture à moi ou à notre radio. J'ai lu, entre autres, Clonière, qu'au début, Pierre Privat, qui est donc la grande figure d'après-guerre donc, de cette maison d'édition, a maintenu l'équilibre, dites-vous, entre les éditions religieuses et laïques et entre le régionaliste et le national, donc qui fait la marque de fabrique de cette maison d'édition, et que lui-même, il faisait la tournée des diocèses à la rencontre des évêques pour essayer de continuer à faire vivre cette maison d'édition et ces éditions religieuses. Racontez-nous ces tournées.
Ah, je ne peux pas vous raconter les tournées.
Vous n'y étiez pas,
parce que je n'y étais pas.
Qu'est-ce que vous en avez lu ?
Et un historien ne peut pas inventer quelque chose qu'il ne connaît pas ou sur lequel il n'y a pas de source. Ce qui est vrai, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les éditions ont repris. La maison, à l'époque, peut-être ne le sait-on pas, mais était une maison complète. C'est-à-dire que c'était une maison d'édition.
Oui, on a oublié de
avec
dire.
Avec une imprimerie.
Et une librairie.
Dans une librairie. Et une maison d'édition. Et il y avait trois têtes dans la maison. Trois activités différentes. Avec des responsables tout à fait remarquables par certains côtés. Pierre Privat a dû faire ses preuves par rapport aux adultes qui l'entouraient ou aux gens beaucoup plus âgés que lui. Alors il y a eu le personnage de Anne qui lui a été collé, si je puis dire, pour en quelque sorte l'aider. Mais c'était une aide un petit peu pesante de mon point de vue.
Donc il y avait une grande figure, on y reviendra. Hein,
C'est une grande figure. Il a fait rentrer toute la sociologie dans les parutions de Privat à ce moment-là. On a quitté un peu le domaine historique, littéraire. Enfin, on l'a quitté. On l'a maintenu. Mais enfin, tout un pan
Il a élargi aux sciences humaines.
On a élargi. Mais Pierre Privat s'est trouvé un moment où aussi les techniques évoluaient.
Alors ces tournées, juste à quoi elles consistaient en fait ? Ça veut dire quoi ? Il y allait, semble-t-il, avec sa femme et il allait rencontrer des évêques pour.
Alors je ne sais pas si sa femme l'accompagnait.
Ah, c'est ce que vous laissez entendre dans votre livre. Hein, c'est.
Ben si je le laisse entendre, c'est que vraisemblablement Madame Privat avait dû me le dire. Et donc oui, il rencontrait les gens, il faisait le tour des diocèses. C'est très bizarre, la maison Privat, à l'époque. Une partie était tournée vers les universitaires et vers les lycées et les collèges. Moi, j'ai eu le crousé.
Ça, on ne l'a pas dit, mais donc c'était l'autre grand poumon de cette
maison d'édition. Ah oui, absolument. Depuis Paul Privat, il y a une ouverture qui est une ouverture
scolaires.
Laïque. Bon. Et le grand auteur qu'on trouvait dans tous les lycées, c'était l'histoire de la littérature française de Crousez. Je l'ai lu, je l'ai subi, c'était étonnant, j'ai même connu son fils, c'était un pan qu'il avait. Mais ça, c'était facile. L'autre, c'était la diffusion, l'écriture et la diffusion du catéchisme. Il y avait un vrai problème à l'époque au sein de l'Église pour le catéchisme. Il y avait une sorte de mouvement à l'intérieur de l'Église qui voulait des catéchismes plus novateurs. Et Pierre Privat s'est trouvé devant des contradictions, à savoir qu'il avait un dessinateur et un metteur en page qui choquait sa clientèle religieuse. Elle la trouvait trop moderne. Donc, et là-dessus, il y a des documents irréfutables, il faisait le tour des différents diocèses pour arracher aux diocèses qui achetaient les catéchismes. Parce qu'il n'y avait pas un catéchisme national, c'était des catéchismes qui étaient plus ou moins locaux.
Je vous rassure, les catéchismes ne sont pas encore nationaux, c'est souvent dans des régions ou dans des diocèses. Alors juste, après l'histoire d'après-guerre de cette maison d'édition, si je l'introduis de manière grossière, on a l'impression à vous lire que c'est à la fois l'histoire d'un développement, c'est la période des Trente Glorieuses, et en même temps, de plus en plus, une histoire difficile. Votre père, Pierre, a eu bien des soucis, a dû se faire bien des cheveux blancs assez jeune, parce que le livre, rapidement, a souffert. Alors, on imagine les éditions religieuses assez facilement, qui déclinent. Est-ce que, dans le fond, l'ensemble de la carrière de Pierre Privat et l'histoire de cette maison d'édition d'après-guerre, c'est cette tension entre la croissance et puis la désaffection pour les livres, Clenière ?
Les raisons des difficultés Privat, c'est aussi le fait que tout le secteur de l'imprimerie avait vieilli et devenait un poids. L'imprimerie, l'impression avait changé. Il fallait de nouvelles machines. Ce n'était pas l'impression telle qu'on l'avait connue avant-guerre.
Et alors, ça coûtait une fortune, c'est ça ou c'est...
Et il fallait acheter du matériel. Et pour acheter du matériel, il fallait des capitaux. Or, il ne faut jamais oublier que Pierre Privat était directeur, ou plutôt, oui, disons, de la maison Privat, mais que le propriétaire était Jean Privat. Et que, jusqu'à la mort de Jean Privat, Pierre Privat n'a pas disposé des capitaux qui lui étaient nécessaires pour développer l'entreprise. Dès qu'il y avait, me semble-t-il, d'après ce que j'ai pu lire, mais j'en suis à peu près certain, une demande de fonds pour acheter quelque chose qui était nouveau, Jean Privat mettait le holà tout de suite.
Donc Jean Privat, pour rappel, c'était qui par rapport à Pierre ?
Jean Privat était, je ne veux pas dire de sottises,
son oncle.
Non, pas son oncle.
Son père, d'accord. Donc cette précision
faite. Oui, c'est non, c'était le père de Pierre. Excusez-moi.
Donc une nécessité de se moderniser et des fonds parfois difficiles à mobiliser.
Oui.
Isabelle Privat, est-ce que c'est ce que vous a raconté votre père avant qu'on parle un petit peu de lui et de l'homme qu'il était? Est-ce que quelque part c'est le souvenir que vous avez de votre père qui s'est battu pendant ses plus de 30 ans pour essayer de faire vivre cette maison d'édition contre vents et marées?
Oui, alors c'est vrai ce que dit M. Nière. Il a été très, très bridé jusqu'au décès de son père. Et ensuite, il a essayé de moderniser. Il fallait moderniser. Il ne faut pas oublier que la librairie avait était dans le même état que depuis 1904, où elle s'est installée 14 rue des Arts, puisqu'avant, ils étaient 50 rue des Tourneurs. Et effectivement, il a dû faire des choix terribles pour l'imprimerie. Il a fait des calculs, il a passé son temps à faire des calculs de rentabilité pour s'il achetait des nouvelles rotatives, etc. Et finalement, il s'est résolu à vendre l'imprimerie en 1967, je crois.
Oui, c'est ça.
Et c'est grâce à la vente de l'imprimerie qu'il a pu enfin moderniser la librairie. Et il a entamé immédiatement après des travaux qui ont modifié complètement son aspect intérieur et extérieur. Et là, je crois qu'après... Donc, les travaux ont eu lieu en 1969. Et là, je crois qu'il a connu enfin les dix meilleures années de sa vie professionnelle, où il a eu enfin une librairie comme il en rêvait, avec un rayon par spécialité, avec des vendeurs... Qui étaient spécialistes de leur discipline, de leur rayon.
Avec des vendeurs de plus en plus qualifiés, d'ailleurs, vous le rappelez, Clonière.
Beaucoup plus qualifiés, qu'il était allé chercher d'ailleurs partout.
La clientèle est exigeante.
Dans toute la France et même à l'étranger. Et là, je crois qu'il a fait rentrer des animations culturelles, de plus en plus des animations, oui. Le public qui venait, etc. Après une dizaine d'années comme ça... Il y a eu, alors là, une modification dans le monde de l'édition, puisque dans le monde de l'édition, et même à Paris particulièrement, il y a eu les capitaux des industriels qui sont arrivés, qui ont racheté la constitution de groupes financiers. Et là, l'édition est devenue industrielle de masse. C'était l'industriel de masse...
Alors d'ailleurs, on lit dans votre livre, il y a eu la concurrence de la FNAC aussi qui est arrivée.
La FNAC est arrivée, mais il n'y a pas que
redoutable ça. Redoutable concurrence.
Il n'y a pas que ça. En 1980, vous en souvenez sans doute, en 1981, la gauche est arrivée au pouvoir. Et ça a eu une grosse importance pour la maison Privat comme pour beaucoup d'éditeurs.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a créé un prix unique.
Le prix unique du livre. La loi Jacques Lang.
Depuis le premier Édouard.
C'était quoi le prix unique du livre ? C'est-à-dire on vendait tous les livres au même prix à cette époque ? C'est...
Exactement.
Dans toutes les librairies.
Exactement. Or, toute la politique commerciale... Toute la politique commerciale des privats, depuis Édouard jusqu'en 1981, c'était des accords de vente avec l'Église en particulier, avec des lycées.
Vous voulez dire prix unique du livre, c'est-à-dire qu'on vend à tout le monde le même prix, c'est ça ?
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Donc, c'est pas du tout
autrement
du
dit, à partir de là, toute la marge commerciale qui avait été créée pendant des siècles par la famille Privat a disparu. Disparu, oui, sous cette forme-là.
Alors, dans le temps qui nous reste, et avant de parler de la fin de cette, non pas la fin de cette maison d'édition, mais d'arriver jusqu'à aujourd'hui, quelques mots sur Pierre Privat, et donc qui dit aussi quelque chose de cette maison d'édition. Vous dites dans votre livre un homme au caractère marqué par les vicissitudes de la vie, mais vous parlez de sa timidité, de sa simplicité, de son humanisme, un homme à l'écoute, à la fois conservateur et moderne, un homme reconnu. Vous dites, voilà, c'était un nom. Vous notez qu'il a été invité de Jacques Chancel dans un radioscopie. C'était un homme aussi de tradition chrétienne. Est-ce que c'était un homme du Sud-Ouest, nous dirait Clunière, et en quoi c'était un homme du Sud-Ouest?
J'aurais été incapable de vous dire ce que nous sommes si je n'avais pas été en Bretagne. Je crois que nous avons des caractères particuliers, une culture qui est une culture ancienne et particulière, qui est une culture d'ouverture, qui est une culture aussi livresque, qui est une culture très vaste, et aussi une culture d'accueil.
Et une culture avec des racines chrétiennes, même si elle s'en défend.
Mais qui n'a pas de racines chrétiennes depuis Clovis. Franchement, non, on ne peut pas. L'histoire de France et l'histoire de l'Église sont intimement liées jusqu'à qu'on essaie de penser qu'elle n'a pas existé.
Isabelle Privat, rapidement sur votre père, qu'est-ce que vous ajouteriez avant qu'on parle d'aujourd'hui? Rapidement. Alors, vous avez perdu votre idée, c'est pas grave, vous la retrouverez. J'aimerais donc maintenant qu'on parle d'aujourd'hui pour finir dans les quelques minutes qui nous restent, puisque cette maison d'édition donc existe toujours, mais ce n'est plus la famille Privat qui en est à sa tête. J'ai vu que Michel-Édouard Leclerc, alors je ne sais pas si c'est trop une référence dans le monde du livre, mais en tout cas, vous le citez, Clunière aurait dit de Privat, « Privat est un des plus beaux fleurons du secteur de l'édition dans le sud de la France ». Ces éditions Privat ont donc été vendues elles ont été vendues et reprises donc par Pierre Fabre, les laboratoires Pierre Fabre donc à Castres, avec cette intention pour cette entreprise de continuer à faire vivre cette réalité culturelle locale, clonière, sur ce rachat. Est-ce que vous voulez dire quelques mots?
Ce que je peux dire, c'est que le nom Privat ne s'est pas éteint avec le fait que la famille Privat n'est plus la direction. Bien sûr, ça a été vendu à Bordas. Bien sûr, ça a été vendu à Fabre. Bien sûr. Mais en même temps, on a trouvé à Rennes un magasin Privat, une librairie Privat. Le nom Privat, et c'est quelque chose qui dépasse même l'existence de Privat en soi. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Je n'en sais rien. À un moment donné, on a changé le nom de la librairie Privat à Toulouse, rue des Arts. Bon, mais il y a toujours les éditions Privat. Mais ce sont des éditions qui sont de plus en plus soumises à des conditions de marché dont je ne peux pas prédire. Un historien est tout, sauf quelqu'un qui prédit l'avenir. Prédire le bon avenir, non. Absolument pas.
Eh ben, en tout cas, on souhaite une longue vie à cette maison d'édition. Pour finir, vous pouvez aller sur le site de ces éditions ou aller dans la librairie Privat, même si ce n'est pas la librairie donc, de cette maison d'édition. Située donc la maison d'édition au 10 rue des Arts et la librairie au 14 rue des Arts à Toulouse, même si vous n'êtes pas toulousain. On vous donnera des conseils de lecture si vous êtes encore confiné malgré vous ou si vous avez du coup découvert encore plus ou repris le goût de la lecture. J'ai noté une nouvelle collection, entre autres, qui dit quelque chose du tempérament de cette maison d'édition, une collection Loin de Paris, qui a édité, entre autres, un ouvrage de Bertrand Vergely sur la sagesse grecque. Un site internet www.éditions-privat.com, éditions-privat.com. Un grand merci à vous d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Et puis je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Clunière, Privat, une histoire d'une maison toulousaine, paru aux éditions Privat. Un grand merci. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.